Bonjour, bienvenue dans ce hors-série de Les humains et leurs machinations. Alors pour ce hors-série, ce n'est pas Raphaël qui va présenter le podcast comme d'habitude, mais ça va être moi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'espace et le rock progressif. Alors pour commencer, il nous faut déjà introduire quelques notions. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le rock progressif ? Alors le rock progressif, c'est un genre musical qui est apparu à la fin des années 60 et début années 70 et qui connaît son point culminant vers les années 70, milieu 70. C'est un genre très influencé donc, par le rock, mais aussi d'autres styles musicaux comme le jazz ou la musique classique. Et les groupes de rock progressif vont faire des compositions qui sont caractérisées par une recherche élaborée dans les structures mélodiques, harmoniques et rythmiques. Qui vont s'affranchir du schéma classique intro, couplet, refrain pour privilégier des plus longs développements. Il se distingue également par ses expérimentations rythmiques, harmoniques et instrumentales, bien que ce soit quand même un genre musical plus accessible que le rock expérimental. Je vais vous parler d'une certaine récurrence du thème de l'espace dans le rock progressif. Alors tout d'abord, il faut se mettre dans un contexte historique particulier. Nous sommes dans les années 60, 70, même 80, et c'est l'époque de la guerre froide entre le bloc soviétique et le bloc occidental. Et il va y avoir la course à l'espace, et ce qui va un petit peu stimuler la curiosité des gens vis-à-vis de l'espace, qui représente quand même un univers inconnu qui n'est pas encore exploré, où finalement tout est possible, est-ce qu'il y a de la vie au-delà de notre Terre, etc. Également à cette époque, il va y avoir une grande expansion de la drogue, notamment dans le milieu de la musique, et notamment du LSD pour ses effets psychédéliques. À l'époque, la musique, notamment le rock progressif et expérimental, donc par les sons, va essayer de reproduire certains de ces effets psychédéliques pour donner une impression de voyage interstellaire. Il y a à cette époque une volonté d'innovation, et on va retrouver le parallèle exploration spatiale, exploration musicale, avec l'utilisation de nouveaux sons pour permettre de découvrir de nouvelles horizons. Alors, en plus du contexte historique, je vais vous parler un peu plus du contexte culturel, autre du coup que la musique, mais notamment du cinéma, qui lui-même est influencé par le contexte historique de course à l'espace pendant la guerre froide. Et je vais vous parler de 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, c'est un film britannico-américain de science-fiction réalisé par Stanley Kubrick et sorti en 1968. Il est caractéristique du genre tout juste émergent, le cinéma expérimental, d'ailleurs, qui émerge en parallèle du rock expérimental. Beaucoup d'artistes se revendiquent ce film comme une grande source d'inspiration dans leurs compositions, notamment des artistes du space rock et du rock progressif. donc c'était une petite parenthèse sur l'Odyssée de l'espace qui a influencé le monde de la musique. Et donc maintenant, je vais développer le lien entre le rock progressif et l'exploration spatiale via l'exploration sonore. Alors, en effet, les artistes de l'époque vont utiliser de nouvelles technologies pour essayer de créer tout un panel de nouveaux sons. Ils vont également composer des morceaux beaucoup plus longs, évolutifs, donc comme j'ai dit précédemment, sans structure classique couplet-refrain, pour donner une impression de dérive, de voyage vers l'inconnu. Également tous ces effets sonores et également l'utilisation de rythmiques très circulaires visent à mimer une expérience transcendante qui auparavant était recherchée par la drogue ou la spiritualité. De nombreux groupes de l'époque notamment effectuaient des voyages en Inde par exemple en quête de spiritualité et de transcendance finalement pour connecter son soi profond à l'ensemble de l'univers. Et cette sensation les compositeurs de l'époque ont essayé de transmettre ces sensations et ce voyage transcendantal via la musique et notamment via le rock progressif. Et maintenant je vais vous parler du space rock, qui est un sous-genre de rock progressif à la limite entre le rock expérimental et psychédélique et rock progressif. Il est vraiment à la jonction de cela et il est un peu moins sophistiqué que le rock progressif et il va proposer une musique quand même plus mûre et moins expérimentale que le rock psychédélique. Donc c'est pour ça vraiment qu'il est à la jonction. Et il repose sur des ambiances planantes et sur des rythmiques assez puissantes et efficaces, associées à des motifs musicaux souvent répétitifs. Il est caractérisé par des longs passages instrumentaux, dominés par des morceaux d'orgue électronique, de synthétiseurs, de guitare, et souvent des paroles liées à la science-fiction et à l'espace. Et je vais vous citer quelques exemples d'artistes emblématiques du space rock. Alors, on va avoir Hawkwind, Pink Floyd, mais également Tangerine Dream du côté allemand, ou Gong pour la France. Alors, d'où émerge le space rock? Souvent, on pense à Pink Floyd avec, en 1967, la sortie de The Piper at the Gate of Dawn. Mais le space rock émerge un petit peu avant, avec Joe Meek, qui sort en 1959 le concept album I Hear a New World. Donc c'est un producteur et auteur-compositeur britannique et il croit à la vie extraterrestre et dans cet album il essaye d'imaginer à quoi pourrait ressembler la vie extraterrestre. Il enregistre également et compose Telstar des Tornados, sorti en 1962, qui porte le nom d'un satellite lancé la même année. Et c'est également un morceau qui marque le début du space rock. Maintenant, concentrons-nous un petit peu plus sur Pink Floyd, qui est vraiment un groupe, un des pionniers du space rock. Il est notamment connu pour avoir sorti en 1973 The Dark Side of the Moon, troisième album le plus vendu au monde, et également il a sorti en 1979 The Wall, qui est le premier, le double album le plus vendu au monde. Alors, là je vais vous parler de l'ère Syd Barrett de Pink Floyd. En 1967, le groupe qui n'a pas encore intégré David Gilmour sort The Piper at the Gate of Dawn avec de nombreux titres relevant du space rock, notamment Astronomy Domini ou Peter Jenner, le manager du groupe à l'époque, va citer des noms d'astres dans un mégaphone en essayant de donner une impression de liaison radio entre une base de contrôle et des astronautes. Et le tout suivi de messages en morse faits par Rick Wright. Donc quelque chose de très spatial. De plus, tout au long de la chanson, on va avoir des citations d'astres, de signes du zodiaque. Mais également dans cet album, on va retrouver Interstellar Overdrive et par exemple aussi Lucifer Sam, qui relève également du space rock. Alors donc pour, je vais vous montrer à quoi ressemble Astronomy Domini, qui est vraiment un morceau caractéristique hein, du space rock, qui est très expérimental, et je vais vous faire écouter ça tout de suite. Thank you. Voilà, donc c'était Astronomie Domini des Pink Floyd. Donc comme vous avez pu le constater, ça fait vraiment très... on a l'impression d'être dans un vaisseau spatial et décoller vers l'espace, de voyager. Donc c'est tout à fait l'effet recherché à l'époque. Ensuite, les Pink Floyd sortent A Sousseful of Secrets en 1968 avec d'autres morceaux de space rock comme Let There Be More Light, qui parle notamment de l'arrivée d'extraterrestres sur Terre. On a également Set the Controls for the Earth of the Sun, qui est d'ailleurs la seule chanson des Pink Floyd où les cinq membres du groupe sont crédités pour avoir participé à la réalisation de ce morceau. Puisque c'est à cette époque que Syd Barrett va être progressivement remplacé par David Gilmour, et ce qui va entamer la transition vers ce que je vais appeler l'ère post-Barrett, qui va beaucoup plus se décaler vers le rock progressif que expérimental. Donc, avant, l'ère Barrett, c'était vraiment du rock expérimental et les morceaux de space rock étaient beaucoup plus proches du rock expérimental que du rock progressif, tandis que l'ère post-Barrett va être caractérisée par des mélodies plus planantes, évocatrices d'un voyage stellaire plus axé vers la contemplation. Alors que lors de leurs morceaux précédents de space rock étaient plutôt donnaient plutôt une vision plus chaotique finalement de ce qu'il y avait au-delà de notre Terre. En effet, le groupe va sortir en 1971 Medal avec certains titres comme One of These Days ou Echoes, qui donne vraiment une impression de dérive dans l'immensité de l'espace. Pour le coup, on ne peut plus vraiment considérer ça comme du space rock, vu qu'il n'y a plus d'évocation explicite de l'espace. D'ailleurs, même le groupe ne se revendique plus du tout comme faisant du space rock. Même dans un interview, Roger Waters a affirmé que les fans disaient que Pink Floyd faisait du space rock juste parce qu'il y avait le mot Moon dans Dark Side of the Moon. Alors qu'en réalité, ils ont bien fait du space rock, mais du coup, c'était à l'époque où Syd Barrett était à la tête du groupe. Également, donc ça j'en ai déjà parlé, en 1973, il sort The Dark Side of the Moon. Et en 1975, ils sortent l'album Wish You Were Here avec Shine On You Crazy Diamond, un long morceau qui rend hommage à Syd Barrett. Et c'est d'ailleurs ce morceau que vous entendez en fond sonore depuis le début de ce podcast. Et ce morceau donne vraiment une impression de planer dans les airs. Finalement, on a envie de fermer les yeux et on a l'impression de dériver vers l'inconnu. Donc, je m'arrête là pour Pink Floyd. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des effets visuels qui sont utilisés à l'époque pour permettre aux spectateurs d'expérimenter une expérience multisensorielle. Donc, on a notamment lors des concerts, on va avoir beaucoup de couleurs sur scène, l'utilisation de fumée, de laser, projection d'images aussi également sur scène, etc. L'utilisation de costumes. Par exemple, Pink Floyd est l'un des premiers groupes à utiliser la lumière sur scène à des fins psychédélique pour accompagner la musique. Notamment, ils projetaient des couleurs sur scène. Et également, niveau effet visuel, on peut parler des pochettes d'albums, souvent très évocatrices de l'espace. Par exemple, la pochette de l'album live Pulse, des Pink Floyd également, mais d'autres albums de d'autres groupes de rock progressif comme Yes ou Hawkwind, qui montrent souvent des paysages lyriques, souvent extraterrestres. Également, on peut évoquer le film de 2003 de Live à Pompéi de Pink Floyd, où lors de la sortie en DVD de ce live, ils ont rajouté des images des missions Apollo 11 et également nous font voyager avec le titre Icos en fond et à travers tout le système solaire. Et on va pouvoir voir des images de Jupiter, de Neptune, toutes ces planètes du système solaire. Ce qui rend vraiment l'expérience encore plus grandiose. Et maintenant, je vais vous parler de David Bowie. Parce que, évidemment, en parlant de l'espace dans le rock, on est forcément obligé de parler de David Bowie. Qui, lui, a créé deux personnages considérés comme ses alter-ego, Ziggy Stardust et Major Tom. Alors, Ziggy Stardust, c'est un extraterrestre qui est venu sur Terre pour nous chanter ses chansons. Et le Major Tom, ça va être un astronaute qui s'est perdu dans l'espace, notamment dans la chanson Space Oddity, sortie en 1969. Mais c'est un personnage qui est également repris dans plein d'autres titres de David Bowie. Donc par exemple, Ashes to Ashes, Hello Space Boy ou Black Star. Et dans le cadre du personnage de Ziggy Stardust, David Bowie va beaucoup se déguiser sur scène. Donc on revient un petit peu à ce que j'avais dit sur l'expérience multisensorielle juste avant. Et donc il jouait avec son groupe The Spiders from Mars. Donc pour David Bowie, l'espace peut être une métaphore, notamment pour le personnage du Major Tom, d'une une sorte de perte de soi, une métaphore existentielle donc de l'errance cosmique. Et donc pour illustrer cela, je vais vous faire écouter Space Oddity, donc un des morceaux les plus connus de David Bowie et un des plus emblématiques, où donc il raconte comment le Major Tom se perd dans l'espace.
Control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
Voilà, donc c'était Space Oddity de David Bowie. Donc, morceau que j'adore tout particulièrement. Maintenant, je vais vous parler d'un groupe vraiment emblématique du space rock. Ça aurait été un crime de ne pas en parler. Hawkwind. Donc, c'est un groupe connu notamment pour ses performances scéniques avec beaucoup de lumière qui mettent vraiment en avant l'impression, enfin les sensations, plutôt que le groupe dans ses concerts ne se met pas du tout en avant, mais va vraiment mettre en avant les effets visuels et la musique. Donc, ils ont notamment sorti un album In Search of Space en 1971, également l'album Live Space Ritual que je vous encourage vivement à écouter, sorti en 1973. Et donc ils évoquent beaucoup le thème de l'espace dans leurs chansons. Notamment, ils vont parler de guerriers célestes qui combattent contre ou avec les forces primitives de l'univers. Également dans leur concert, il y a une dimension assez théâtrale avec par exemple Robert Calvert qui va se déguiser et qui joue sur scène. Ils vont également collaborer avec l'écrivain britannique de science-fiction et d'heroic fantasy Michael Moorcock qui écrit les paroles de certaines chansons dans certains albums, comme par exemple dans l'album Sonic Attack. Et il arrive que sur scène, il lise ses poésies qu'il a écrites. Donc vraiment, pour ce groupe, un gros travail dans la mise en scène pour donner vraiment, pour avoir un concert totalement immersif en adéquation avec leur musique spatiale. Maintenant, je vais vous parler des nouvelles technologies qui ont permis à ces groupes d'explorer l'espace par l'exploration sonore. Donc, en effet, avec l'émergence du rock progressif et du space rock, il y a eu l'émergence de nouveaux instruments qui permettent de créer des sons un petit peu extraterrestres. Donc, par exemple, il va y avoir l'orgue Hammond, je vais vous montrer un petit peu quel bruit il peut faire. Ça fait des sons très spatiaux. Voilà, donc il est beaucoup utilisé par de nombreux groupes à l'époque. Il y a également le mellotron, beaucoup utilisé, où en fait ça marche avec des systèmes de bandes qui sont associés à chaque touche et qui vont pouvoir jouer des sons qu'on a enregistrés. Il y a également le piano électronique Wurlitzer, qui est sorti en 1954 et qui va permettre également de créer des sons assez caractéristiques. Il va également y avoir des effets de modulation qui sont beaucoup utilisés dans les morceaux de rock progressif. Donc avec une pédale associée à une guitare, on va pouvoir faire des effets de chorus, de phaser, de flanger. Je vais vous montrer un petit exemple d'un effet flanger pour vous montrer à quoi ça ressemble et vous allez voir que ça donne un côté très spatial. Hop, je vous fais écouter ça. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez moderne pour l'époque. Maintenant, on est plus habitué avec toutes les nouvelles technologies de faire des sons comme ça. Là, c'était vraiment c'était assez révolutionnaire et du coup, il l'utilisait dans beaucoup, beaucoup de morceaux. Également, il pouvait utiliser des effets de réverbération, de délai, pour en fait créer une sorte de spatialisation sonore, une immersion totale avec une. En fait, ça va évoquer ces sons-là une certaine profondeur, ça va évoquer l'infini, la distance, donc des choses relatives à l'espace. Et également, pour ces cette volonté d'immersion dans la musique. Il va y avoir... ils vont essayer de faire des sortes de panoramiques stéréo. Par exemple, pour Pink Floyd, à l'époque, on bricolait un petit peu pour avoir le rendu qu'on voulait. Et eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mis un haut-parleur sur roulette. Et comme ça, ils le faisaient bouger sur la scène pour donner une impression de rotation, finalement. Comme si on était dans un engin spatial en orbite. Donc voilà, à chaque fois, ils essayaient de jouer sur les... non seulement sur les sons, mais les effets sonores, la manière de coordonner les sons dans l'espace. Et aussi, je ne vous ai pas parlé, mais il y a le synthétiseur, évidemment, qui est très associé à l'espace, avec notamment le Moog qui est sorti en 1965, puis le Mini Moog en 1970. Alors, les synthétiseurs sont, donc, comme je l'ai dit, extrêmement associés à l'espace dans l'imaginaire collectif. Et ça, c'est pour une raison, c'est que Mort Garson a utilisé le synthétiseur Moog pour faire la bande-son du premier pas de l'homme sur la Lune, qui a ensuite été retransmis à la télévision lors de la mission Apollo 11. Et donc, ça explique voilà, cette association synthétiseur et espace. Et en effet, hein, dans les morceaux de rock progressif, les synthétiseurs sont extrêmement utilisés. Maintenant, je vais également vous parler de l'utilisation de sons dits cosmiques, avec pour le coup un exemple un peu plus récent, car en 2012, Mikey Heart Band sort l'album Mysterium Tremendum. Donc, pour contextualiser un petit peu, Mikey Heart, c'est l'ancien batteur de Grateful Dead. Et donc, dans cet album, il va mêler musique et son cosmique, qui en fait, ces sons cosmiques sont issus de la conversion d'ondes électromagnétiques émises par des objets célestes en ondes sonores. Et pour faire cet album, ils ont collaboré avec George Smoot, qui est un scientifique, et qui, avec John Mather, a reçu le prix Nobel de physique en 2006 pour ses travaux sur le rayonnement de fond cosmologique. Alors, pour vous donner un petit exemple d'à quoi peuvent ressembler ces sons cosmiques, je vais vous faire écouter une comète dite chantante qui a été enregistrée par l'ESA. Et donc pareil, hein, c'était les ondes électromagnétiques qui ont été converties en ondes sonores et le résultat est assez surprenant. Je vous fais écouter ça tout de suite. Voilà, donc ça c'était l'exemple d'une comète enregistrée par l'ESA. Donc voilà, le son est assez surprenant. Et donc ce sont ce type de sons qui sont utilisés donc, pour l'album Mysterium Tremendum, que je vous encourage vivement à écouter. Maintenant, pour finir, je vais parler du fait que il y a une influence réciproque entre le rock progressif et l'espace, puisque en effet, les missions spatiales vont rendre hommage au rock progressif. Donc, pour prendre l'exemple des Beatles, qui n'est pas vraiment un groupe de rock progressif, mais certains morceaux peuvent s'en rapprocher, ils ont différentes phases dans leur groupe, et on peut donner l'exemple de Good Day Sunshine, qui... et utilisé à plusieurs reprises pour réveiller les équipages des missions STS, et il est même utilisé pour réveiller l'équipage de l'ISS lors d'un live de Paul McCartney en 2005, où il va se connecter directement en live à l'ISS pour leur jouer la chanson en live, c'est pas enregistré. À noter également que la BBC va utiliser les groupes emblématiques du space rock ou des artistes comme David Bowie avec Space Oddity pour ajouter des musiques sur leurs émissions qui parlent de l'espace, notamment de la mission Apollo 11 en 1969. Et Whooping Floyd va notamment faire une improvisation appelée Moonhead qui va servir voilà, pour ses émissions. Également toujours sur Pink Floyd, il faut savoir que c'est le premier groupe de rock à être joué dans l'espace en 1988 quand leur album live Delicate Sound of Thunder a été joué dans la station Mir. En effet, Pink Floyd était au Kazakhstan pour assister au décollage de la navette Soyuz TM-7 lorsque les cosmonautes ont insisté pour emporter l'album avec eux. Et donc ils l'ont écouté dans la station et ensuite quand ils ont quitté la station, ils l'ont laissé dedans et lorsqu'elle s'est désintégrée en 2001, bah, les albums ont été désintégrés avec. Également en 2008, la NASA va diffuser Across the Universe des Beatles dans l'espace en direction de l'étoile polaire pour fêter les 40 ans de la chanson et les 50 ans du lancement du premier satellite américain Explorer 1. Également, Chris Hadfield, qui est un astronaute canadien qui est allé dans l'ISS, mais c'est également un musicien. Et en fait, il a fait sa propre version de Space Oddity, et il a réalisé un clip directement dans l'ISS, disponible sur YouTube. Je vous encourage vivement à le voir. On peut le voir flotter avec sa guitare en train de chanter dans l'ISS. C'est vraiment impressionnant. Et donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez apprécié. C'était un format un petit peu différent que d'habitude, vu que c'était un hors-série. Donc là, je vous ai parlé globalement de l'espace et du rock progressif au lieu de me concentrer juste sur une seule chanson. Donc j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Et donc on va se quitter là-dessus. Et pour terminer, je vais juste vous faire écouter Across the Universe des Beatles.
Rain into a paper cup, they slither.